Imaginez que lors d'une balade à la campagne, vous tombiez sur une maison abandonnée sur laquelle un écriteau mentionne « à vendre 50 000 euros ». Vous entrez dans la maison et là, vous vous rendez compte que l'ancien propriétaire ou locataire a laissé quelques objets parmi lesquels une peinture encadrée. Ma femme, qui ne sait pas de quoi il s'agit, a dit « elle fait flipper ta peinture ». Alors vous sortez votre portable et vous faites quelques recherches avec Google Lens, etc. Et en fait, après quelques recherches sur Internet, vous vous rendez compte qu'il s'agit de l'œuvre originale de Leonardo de Vinci, intitulée Salvator Mundi, dont la valeur est estimée à 386 millions d'euros. Alors, vous n'avez pas 50 000 euros sur votre compte en banque, mais entre la petite épargne que vous avez, vous vous dites qu'en revendant votre voiture, votre montre, votre instrument de musique, votre MacBook Pro, votre iPhone et quelques autres objets de valeur, allez, ça devrait le faire. Mais la question c'est, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un bon deal? Qui ici serait prêt à se débarrasser de tout ce qu'il a pour acquérir cette maison? Levez la main. Je devrais même pas poser la question. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, on se pose tous cette question presque chaque jour, sans toujours la formuler ainsi. On se pose cette question avant d'accepter un emploi, avant de déménager, avant de nous engager dans une relation affective, avant d'investir nos économies dans un bien, dans un projet. On évalue instinctivement ce que nous allons gagner et surtout ce que cela va nous coûter. On parle des fameuses pertes et profits. Et en fait, cette même évaluation, nous l'appliquons bien souvent, sans l'avouer, dans notre rapport à Dieu. Quelque part, si Dieu existe, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre? Elsa a pris la décision de suivre Jésus et elle va nous en parler après. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, vous qui êtes venu pour entourer aussi Elsa dans cette journée, ce choix qu'elle a fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup, COUT? Eh bien, figurez-vous que c'est justement à cette question que Jésus répond dans un court passage de la Bible que nous croyons être la parole de Dieu et qu'on va lire. Et vous remarquerez bien la manière dont il choisit de répondre à cette question. Il ne commence pas par le prix à payer, mais par la valeur de ce qui est proposé. Parce qu'au fond, personne n'abandonne quelque chose d'important pour une autre chose d'une valeur inférieure. Si vous avez vos Bibles sur vos smartphones en format papier, vous pouvez l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 44. Si vous n'avez pas de Bible, ce n'est pas grave, le passage est très court, c'est très facile à suivre, donc juste écoutez l'histoire et après on va en parler. C'est Jésus qui parle. et qui dit « Le royaume des cieux », on peut aussi comprendre, c'est la même chose, le royaume de Dieu, « ressemble à une œuvre de Léonard de Vinci trouvée dans une maison abandonnée. » Non. C'était une blague, je reprends sérieusement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, Seigneur, répondirent-ils. » Je m'arrête ici. Et on va voir ce matin que ce passage souligne deux vérités qui vont être en fait les deux points de ce que je veux vous partager aujourd'hui. Première vérité concerne la valeur du royaume de Dieu. Deuxième vérité, l'urgence du royaume de Dieu. Commençons par la valeur du royaume de Dieu. Pour parler de cette valeur, Jésus choisit de raconter deux petites histoires qui sont finalement très ressemblantes, très similaires, très proches. Et ces histoires s'appellent des paraboles. Une parabole, en fait, comprenez-le, c'est un récit tout simple, emprunté à la vie quotidienne de l'époque de Jésus, à ses auditeurs, pour illustrer une vérité spirituelle. Et en fait, si Jésus raconte deux histoires l'une après l'autre qui sont si ressemblantes pour illustrer une même vérité, c'est parce que cette vérité est essentielle. La première image, donc, c'est celle d'un homme, sans doute un simple ouvrier agricole, qui travaille un jour dans un champ et tombe ce jour-là, par pur hasard, sur un trésor enterré. Alors cette découverte peut nous paraître surprenante, elle nous fait peut-être rêver, on pense aux histoires de coffres de pirates qui sont enterrés sur une île, il faut trouver la carte, la croix, nanana. Mais en fait, c'était quelque chose de très courant à l'époque de Jésus, dans un monde où il n'existait pas de banque. Et dans ce monde régulièrement traversé par des guerres, par des instabilités, il était courant d'enfouir ses richesses dans la terre. Et parfois, quand le propriétaire mourait avant d'avoir pensé à le récupérer, le trésor restait enterré. La seconde image, c'est celle d'un marchand qui, lui, semble consacrer sa vie entière à chercher de belles perles. Et qui finit un jour par en trouver une tellement exceptionnelle qu'elle rend soudain insignifiant tout ce qu'il possède. Et dans les deux cas, dans ces deux histoires, la conclusion est identique. Ces hommes vendent tout ce qu'ils ont et ils le font avec une joie qui ne laisse place à aucun regret. Alors la vérité spirituelle illustrée ici est simple. Jésus est en train d'affirmer par ses histoires que le royaume de Dieu est un trésor tel qu'il vaut la peine de tout perdre pour l'obtenir. Je le redis, le royaume de Dieu est un trésor tel qu'il vaut la peine de tout perdre pour l'obtenir. On peut se poser cette question et se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus insiste-t-il autant sur la valeur inestimable du royaume de Dieu? Eh bien, parce que faire partie du royaume de Dieu, eh bien, c'est vivre en ayant Dieu pour roi de nos vies. C'est vivre sous le règne de Dieu. Et en fait, si c'est si important, c'est parce que c'est quelque chose que nous avions à l'origine et que nous avons perdu. En fait, quand on remonte dans le premier livre de la parole de Dieu, la Genèse, qui parle des commencements, de la création de ce monde par Dieu, on se rend compte que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, pour vivre en communion avec lui. On se rend compte au fur et à mesure des pages que ce Dieu est un Dieu qui est bon. Il est un bon roi et on se rend compte qu'il faisait bon vivre dans son royaume, sous sa royauté, sous son autorité. Il n'y avait rien de meilleur, rien de plus excellent que cela. Malheureusement, quand on poursuit Genèse 3, chapitre 3, on se rend compte que on a rejeté Dieu. En fait, on l'a dit à Dieu, « Je ne veux pas que tu sois le roi de ma vie. Je veux moi-même être le roi de ma propre vie. Je veux la conduire comme bon me semble. » On a parlé de péché ce matin, et c'est une des définitions principales du péché. Oui, c'est le mal que l'on fait. On peut parler de vol, on peut parler d'adultère, etc. Bien sûr, ce sont des mauvaises choses. Mais le fondement du péché, c'est le rejet de Dieu. Ce choix de dire « je veux vivre ma vie sans Dieu, je ne veux pas de lui dans ma vie ». Et depuis, en fait, on se rend compte que l'homme, que nous, ne cessons de chercher notre joie ailleurs qu'en Dieu. Ayant perdu ce trésor qu'on possédait, nous courons aujourd'hui après des pseudo-trésors. Parmi ceux-ci, on peut parler de la réussite professionnelle, on peut parler de l'argent, on peut parler de la famille, le confort, le regard des autres, les biens matériels, etc., etc. On pourrait rallonger cette liste avec tant de choses. Et bien sûr, plusieurs de ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais le problème, c'est que rien de toutes ces choses ne peuvent combler durablement le vide qui demeure au plus profond de chacun de nous. Nous sommes dans nos vies un petit peu comme ce marchand de perles qui recherche constamment des belles perles. On a soif de ces perles. En fait, le problème, c'est que il n'y a rien de matériel dans ce monde qui ne peut combler un cœur qui a été créé pour trouver sa joie et sa satisfaction en Dieu. Mais la bonne nouvelle de ces deux histoires, c'est qu'il est possible de faire à nouveau partie de ce royaume. Il est possible de retrouver ce royaume. Et c'est pour ça que Jésus en parle. Les deux hommes de la parabole le trouvent et vendent tout ce qu'ils ont pour l'obtenir. Alors, on pourrait croire quelques instants que notre accès au royaume de Dieu peut s'acheter. Mais en fait, il n'en est rien. Parce que quand on parcourt l'ensemble de la Bible, on sait que Dieu ne se contredit pas. Il ne ment pas. eh bien, on voit clairement qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas acheter notre place dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose que Dieu nous offre gratuitement. Mais si c'est gratuit pour nous, c'est parce que quelqu'un a déjà payé le prix de notre place dans le royaume de Dieu. Et cette personne, on l'a chanté, on l'a célébré ce matin. C'est Jésus lui-même, celui même qui est en train de raconter ces paraboles. Je ne sais pas vous, mais en préparant ce partage ce matin, je me suis dit, mais je trouve tellement magnifique et significatif que la peinture qui a le plus de valeur sur cette terre est une représentation de Jésus. Vous savez ce que signifie Salvator Mundi ? Ouais, sauveur du monde. La Bible nous dit que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui a quitté la gloire du ciel, qui a renoncé à ce privilège pour venir sur la terre sous la forme d'un homme. Et par un amour énorme pour nous, il s'est humilié et il a été jusqu'à mourir sur une croix à notre place. Parce que c'est la mort que nous méritons de rejeter Dieu. Il a pris cette condamnation à notre place pour nous ouvrir à nouveau l'accès à son royaume alors qu'on ne le mérite pas. Et c'est bien parce que Jésus le premier a tout abandonné pour nous que nous pouvons en retour vendre tout ce que nous avons, mais ce qui ne signifie rien d'autre que renoncer à tout ce que nous avons pour Jésus, en réponse à cet amour pour nous. Mais remarquez bien que ces deux hommes ne renoncent pas à tout ce qu'ils ont sous la contrainte. Personne ne les force. Ils ne le font pas non plus à contre-cœur en se disant « Ah, dur hein, de se séparer de cela. » Non, mais le texte le mentionne avec joie. Parce que tout ce qu'ils viennent de trouver est d'une valeur infiniment supérieure à tout ce qu'ils vont laisser derrière eux. 50 000 euros contre 386 millions d'euros. Quand j'étais jeune, un peu plus jeune, à 8 ans, j'avais une passion pour la collection de timbres. Je me disais que je les collectionnerais toute ma vie. Et ma collection, elle s'était sacrément étoffée. Et un jour, je me suis pris de passion pour le skateboard, quelques années plus tard. Et j'avais l'ambition dans ma tête de faire carrière dans le skateboard, de devenir skateboarder professionnel. Plus tard, je me suis pété deux clavicules, ça calme. Et j'ai arrêté de collectionner les timbres. Encore plus tard, je me suis pris de passion pour la musique et je voulais un jour percer dans ce domaine. Faire partie d'un groupe, faire des concerts. Et j'ai donc arrêté le skateboard. Et un jour, je suis tombé amoureux. Et je suis toujours amoureux. Mais est-ce que vous comprenez le principe ? On ne lâche jamais un amour, sinon parce qu'on vient d'en trouver un plus grand. On ne lâche jamais un amour, sinon parce qu'on vient d'en trouver un plus grand. Et ça, ce n'est pas valable pour le mariage. Hein. Mais la question, elle est là. Qu'est-ce que j'aime le plus sur cette terre ? Qu'est-ce que j'aime le plus sur cette terre ? Et je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, La première réponse qu'on va apporter, c'est, et je l'apporte moi, moi je dirais moi-même. J'aime ma propre vie. Et en fait, suivre Jésus, eh bien, c'est être prêt à renoncer à moi-même, à renoncer à mon ego, à renoncer à mon orgueil de penser que je peux vivre sans Dieu, de renoncer à cette prétention-là, à reconnaître à un moment donné que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de lui. Et c'est reconnaître que Dieu m'appelle à lâcher le trône pour le rendre à celui qui le revendique de manière légitime, Jésus lui-même. C'est exactement ce qu'avait compris un jeune missionnaire américain du siècle dernier qui s'appelle Jim Elliot et qui était parti pour parler de ce royaume de Dieu à une tribu qui était isolée en Équateur, mais une tribu réputée pour tuer tout étranger qui s'en approchait. Mais il était tellement heureux du trésor qu'il avait découvert, qu'il voulait partager ce trésor à ces personnes qui n'en avaient pas encore entendu parler. Averti des risques par ses proches, il avait répondu par cette phrase qui est restée célèbre. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Cet homme sera tué quelques mois plus tard par les hommes mêmes qu'il était venu aimer, qu'il était venu servir. Mais Jim Elliot savait qu'il possédait déjà ce trésor, cette perle précieuse, et que rien ni personne ne pourrait jamais la lui enlever, même pas la mort physique. Deuxième point, après la valeur du royaume, ce sera plus court, l'urgence du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, le ton change. Je relis juste la partie concernée. Troisième histoire de Jésus, le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, Seigneur, » répondirent-ils. Après la découverte et la joie du trésor trouvé, Jésus évoque maintenant l'image de ce filet jeté à la mer qui ramène dans ses mailles toutes sortes de poissons, les bons, les mauvais. Et ce n'est qu'une fois revenu sur le rivage que les pêcheurs effectuent le tri. Et l'image est assez claire. Aujourd'hui encore, dans ce monde, aux yeux de Jésus, il n'existe que deux catégories de personnes. Celles qui font partie du royaume de Dieu et celles qui n'en font pas encore partie. Mais un jour viendra où Dieu effectuera lui-même le tri. Et Jésus affirme que ce jour-là, ceux qui ne font pas partie du royaume de Dieu seront jetés dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là encore, c'est une image, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est une image pour évoquer un lieu de souffrance terrible et des souffrances dont on apprend aussi dans la parole de Dieu qui ne s'arrêteront jamais. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus est celui qui parle le plus de l'enfer, de ce lieu de souffrance, de jugement et de perdition? Est-ce que vous pensez que c'est pour nous faire peur? Moi, je ne pense pas que c'est l'intention première, même si ça fait flipper. Mais est-ce que vous avez déjà vu à la télé ces campagnes vidéo un petit peu trash sur la sécurité routière? Vous voyez le mannequin, la voiture qui fonce dans un mur, le mannequin qui n'a pas mis la ceinture, qui est protégé, qui est projeté à travers le pare-brise, qui s'éclate. Ou alors ces images difficiles à regarder sur les paquets de cigarettes avec les poumons détruits, etc. Pourquoi est-ce qu'on nous montre ces choses d'après vous? Comment? Je pense pas que ce soit la première intention. Bien sûr, ça c'est aussi censé à un moment donné nous faire réfléchir. Noam?
Pour nous protéger?
Ouais. Merci pour vos réponses, les enfants. Je pense qu'il y a deux objectifs principaux. Le premier, parce que c'est vrai, c'est une réalité. Si vous ne mettez pas votre ceinture et que vous avez un choc frontal, il y a de fortes chances que c'est ce qui vous arrive ce jour-là. Deuxième chose, parce que si on ne nous montrait pas ces choses-là, si on ne nous en parlait pas, ça ne serait pas une preuve d'amour à notre égard. Parler d'un danger réel à quelqu'un qu'on aime n'est jamais quelque chose de cruel. Ce serait se taire alors qu'on sait ce qui va arriver, qui serait cruel. Si Jésus insiste donc tant sur l'enfer, c'est précisément parce que l'enfer est bien réel et parce qu'il nous aime tellement. Et on l'a chanté ce matin encore, qu'il ne désire pas que ce soit notre destination finale. Et là encore, avoir Jésus pour roi de sa vie, c'est suivre un roi qui, sur la croix, a subi l'enfer que nous méritions, afin que nous n'ayons jamais à y aller. Le jugement, vous vous rendez compte, n'a donc pas disparu. Il est toujours là. Soit nous le subirons un jour, soit nous reconnaissons que Jésus-Christ, et nous croyons que Jésus-Christ l'a déjà subi par amour pour nous. Je termine. Le texte, l'histoire, se termine par cette question toute simple de Jésus à ses auditeurs. Avez-vous compris tout cela? Avez-vous saisi, les amis, que vous êtes devant le meilleur deal de votre vie? Elsa a fait ce choix de suivre Jésus, de l'avoir pour roi et de lui laisser le contrôle de sa vie. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous nous réjouissons de cela. Et nous voulons célébrer ce que Dieu a fait pour elle, pour lui permettre d'entrer dans son royaume. Ce matin, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore fait le choix de confier les rênes de votre vie à Jésus-Christ, alors l'invitation, elle est pour vous. Tant que vous êtes sur cette terre, que vous vous levez le matin, que vous respirez et que vous êtes en pleine capacité de vos moyens, vous pouvez répondre à cette invitation. Parce qu'après, un jour, il sera trop tard, soit parce que vous allez quitter cette terre, soit parce que, on le sait, Jésus est vivant, il va revenir et on l'attend. Et pour ceux qui êtes ici ce matin et qui sont déjà en possession de ce trésor, de cette perle de valeur, et bien que Jésus renouvelle notre joie de le connaître, de l'avoir pour roi. Qu'il renouvelle aussi notre désir d'en parler sans nous lasser à toutes celles et ceux qui, autour de nous, cherchent encore cette perle sans le savoir. Enfin, et je termine par un encouragement pour toi, Elsa. En faisant ce choix de te placer sous la royauté de Christ, tu as réalisé le meilleur deal de ta vie. Le chemin ne sera pas facile, parce que renoncer à soi-même, mourir finalement à soi-même, ça fait mal. C'est éprouvant, ça coûte. C'est l'apprentissage en fait douloureux de toute une vie. Mais n'oublie jamais, 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 combien Jésus, le Salvator Mundi, t'aime et qu'il a promis d'être toujours à tes côtés et que jamais rien ni personne ne pourra t'enlever ce trésor, ne pourra jamais t'enlever cette joie de faire partie de son royaume.